Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM 105.1 et j'ai le grand plaisir de retrouver notre ami Jacques Paradis pour la chronique œnologie et vin. Bonjour Jacques.
Bonjour Guillaume.
Alors tout d'abord, eh bien, très bonne année à toi. On est ravis de te retrouver pour 2017 pour parler de vin. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller en Italie.
En Italie, pour voyager sous le soleil italien.
Et voilà.
Tu as sélectionné un vin rouge ou blanc?
Alors, un vin rouge, c'est un Gattinara, alors qui est le nom de la région.
D'accord.
Et de l'appellation, qui se trouve dans le Piémont. Alors, c'est le nord-ouest de l'Italie.
C'est ça.
Alors, si on voit, c'est la, cette zone, c'est une toute petite zone qui est située à peu près à environ, je crois que c'est environ 60 kilomètres de Milan.
La région de Milan, de Turin, ouais. Les choses comme ça.
Hein. C'est cela. Et c'est de la maison Travaglini. Alors, c'est un vin de 2010.
Oui.
Et que l'on peut trouver là, dans les succursales de la SCBO, c'est Vintages, et c'est le vin se détaille à 29,95.
D'accord, donc c'est une sélection qui vient d'arriver en Vintages?
Il y a quelques semaines, et j'ai vérifié aujourd'hui quand même s'il restait des produits en succursale dans la région de Toronto.
Oui, oui.
Et il en reste un certain nombre de bouteilles. Pas beaucoup, mais il en reste ici et là, alors on peut encore le trouver assez facilement.
Alors on va se dépêcher de se rendre dans la LCBO pour essayer de trouver ce Gattinara. Est-ce que tu peux nous définir en deux mots comment se caractérise ce vin?
Oui. Alors, les vins de Gattinara sont faits à base de Nebbiolo. Et Nebbiolo, c'est le grand cépage rouge du nord de l'Italie.
Oui.
Alors, qui est principalement cultivé exclusivement, en fait, dans la région de Barolo, Barbaresco, Roero, qui sont juste un petit peu plus au sud de Gattinara.
Oui.
Et c'est un cépage qui est un petit peu difficile et puis contraire à cultiver, mais qui donne vraiment des résultats spectaculaires. Et souvent, on le décrit comme un cépage qui est particulièrement aromatique.
C'est un cépage qui est vraiment propre à l'Italie, je crois.
Oui. Alors, oui. C'est l'une des choses merveilleuses avec les vins italiens, c'est que il y a un nombre, c'est sans doute le pays qui a le plus grand nombre de cépages indigènes.
Eh oui.
Alors, lorsqu'on veut se dépayser et sortir un peu du Chardonnay, du Cabernet Sauvignon et du Merlot,
Merlot,
alors
ouais.
Voilà. Alors, on se tourne vers l'Italie. Et plusieurs des vins italiens de ces cépages indigènes de l'Italie se caractérisent par un fruité de cerise, de griotte et souvent une très, très bonne acidité. Alors, ce sont des vins qui sont parfaits à table.
Mm.
Et dans ce cas-ci, alors le Barolo, c'est vraiment le cépage roi de, pardon, pas le Barolo, mais le Nebbiolo.
Le Nebbiolo.
Le cépage roi là-bas. Et souvent, on le caractérise au niveau de ses parfums par le goudron et la rose.
Alors, c'est vraiment un goût particulier, le Nebbiolo, je crois. Oui, c'est vraiment différent de ce qu'on connaît peut-être justement en France ou ici en Ontario.
Oui, oui, très distinct. Mais alors avec un bon fruité de fraises, de cerises, de fruits rouges.
Mm-hmm.
Mais en plus, dans le cas ici, on trouve des arômes et des saveurs de fumée, de sous-bois, de feuilles de tabac, de violette. Alors souvent, il y a une composante fleurie dans les vins rouges.
D'accord.
Et alors c'est très agréable. C'est le genre de vin dont on ne se lasse pas finalement d'essayer d'en deviner tous les arômes.
Alors, c'est un vin qui a une grande longueur en bouche, peut-être, j'imagine?
Qui peut avoir, oui, une bonne longueur en bouche et qui est très séduisant simplement par l'odorat.
Alors?
Qui a un nez fantastique. Et c'est le cas de celui-ci. Et également un vin qui a une très bonne acidité, un petit peu plus d'acidité que les vins de Barolo de Barbaresco.
Oui,
parce qu'on
oui.
est un petit peu plus au nord,
oui.
Et des tanins qui sont un petit peu moins agressifs. Alors, et il est même un petit peu plus peut-être aromatique que la plupart des Barolo et des Barbaresco. Alors, c'est un vin séduisant, et celui-ci qui a déjà 6 ans.
Oui, 7 ans même presque.
7 ans maintenant, oui. Alors, montre déjà là tout un spectre de ce qu'on appelle les arômes, puis des saveurs tertiaires, alors qu'ils ont comme plus de feuilles d'automne, des saveurs un petit peu terreuses, alors qu'ils se développent justement avec le vieillissement en bouteille.
D'accord, d'accord.
Et même à la couleur, on peut voir que c'est le vin est rubis, mais déjà tire plutôt vers la couleur brique.
Ah oui, il a commencé à vieillir, à se maturer.
C'est cela. Alors, c'est un très bel exemple.
On va avoir à boire maintenant, donc, ce 2010?
Oui, il est prêt à boire. Prêt et à puis, boire. Les tanins ne sont pas agressifs, alors c'est tout en douceur. Et vraiment, c'est un vin séduisant.
Et est-ce que tu as une suggestion d'accompagnement pour ce type de vin, le Gâtinara?
Oui, je crois qu'on pourrait aller avec les vins de Nebbiolo sont excellents avec des viandes, comme par exemple l'agneau ou oui. Le bœuf. Alors, on peut penser par exemple à un osso buco ou un gigot d'agneau grillé. Je crois qu'avec le canard aussi, ça pourrait très bien faire. Passons à des plats de pâtes aux champignons, peut-être arrosés d'huile de truffe.
Ah oui, la truffe, la fameuse truffe de l'Italie.
Du nord de l'Italie, oui.
Du nord de l'Italie.
Oui, et une lasagne. Alors, je crois qu'il y a, c'est un vin qui est très polyvalent à table. C'est ça, en raison de sa bonne acidité et de son fruité qui fait d'excellents accords.
Ouais, qui me donne faim, moi, qui subis encore le décalage horaire. Je suis un petit peu décalé et je commence à rêver de tous ces mecs que tu évoques.
Oui,
passons
oui.
Maintenant alors au deuxième vin, le vin plaisir de la semaine, qui est cette fois un alcool un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, ce dont on a l'habitude de parler.
Alors, je sors un petit peu des sentiers battus. En fait, ce n'est pas vraiment un vin. On est presque plus du côté bière. Enfin, avec, ce n'est pas une bière, un saké.
Un saké, voilà, un saké, mais c'est intéressant. On n'a jamais encore évoqué ensemble le saké. Alors, est-ce que, en deux mots, tu peux nous expliquer ce qu'est un saké pour les néophytes comme moi qui n'en boivent pas, qui ne connaissent pas très bien?
Oui, alors le saké est un peu comme la bière, en fait, c'est un brassage, mais c'est à partir de riz.
Oui.
Et selon la différente qualité, mais on élimine une partie de l'amidon, on le polie, le riz, de manière à avoir uniquement la meilleure, ce qui reste de meilleur du grain de riz.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, alors celui-ci, c'est le saké Junmai Namacho. J'espère que je prononce correctement. Vous pourrez vous rendre sur le site pour avoir le nom correctement.
Absolument.
Et c'est d'un producteur ontarien.
Alors, c'est un saké ontarien, voilà, qui est intéressant.
C'est cela, Izumi. Alors, il y a sans doute un certain nombre d'auditeurs qui connaissent déjà cette entreprise-là, qui est située dans le quartier historique de la distillerie.
D'accord.
Et qu'on peut aller visiter. Ils ont des visites guidées. Alors, c'est intéressant. Et puis, alors, celui-ci se détaille à 12,90. Il est offert à la SCBO pour 300 millilitres.
D'accord.
Et j'ai eu l'occasion de le goûter ce matin. Alors, c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit. J'avais d'autres options possibles. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? On se prive souvent.
Oui, c'est une excellente idée, d'autant que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, peut-être, on a moins l'habitude, en tout cas, de déguster un saké ici en Ontario. Alors, je crois, le peu que j'en sais, que le saké doit se déguster théoriquement assez chaud, assez tiède. C'est bien le cas?
En fait, les bons sakés, plusieurs des bons saké, on recommande plutôt de les boire frais.
Frais maintenant, d'accord.
Oui, oui. Dans ce cas-ci, c'est un saké qui est assez léger de caractère, alors avec des arômes floraux qui sont discrets, de poire, et c'est un saké, celui-ci, qui a une petite pointe de douceur.
D'accord. Quand tu dis douceur, tu veux évoquer un petit peu de sucre.
Alors, il est de demi-doux. Alors,
d'accord.
Il y a un petit peu de je crois que c'est 17 grammes de sucre. Alors, ce n'est simplement, c'est une petite, une belle rondeur de sucré. Puis une texture crémeuse. Alors, c'est très, très agréable à boire par lui-même.
En apéritif, peut-être? Ou comment est-ce qu'on boit un saké?
En apéritif. Évidemment, c'est l'un des accompagnements classiques pour les sushis et les sashimi.
D'accord, oui, tout à fait.
Mais je crois qu'avec des salades également, je pourrais voir des rouleaux asiatiques.
Oui.
Peut-être des pétoncles. Alors, le petit goût sucré des pétoncles et délicat des pétanques, tu serais excellent avec ça. Alors, si on fait une entrée de pétanque, par exemple, accompagnée de ce saké-là, des huîtres, peut-être même des fruits.
Voilà, pour sortir des sentiers battus, un saké Juman... Alors, attends, j'essaie de bien prononcer. Junmai Namacho. J'espère que j'ai bien prononcé. Vous retrouverez les noms, encore une fois, sur le site internet de Choc FM, chocfm.ca, la rubrique des chroniques.
Et voilà.
Jacques, un grand merci pour nous avoir fait encore voyager, rêver, découvrir les vins, l'œnologie et des mets délicats.
Ça me fait plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Très bien.
À bientôt et nous restons sur Choc FM 105.1.